France Musique. Brut d'accordéon. Félicien Bru. France Musique.
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 48e épisode de Brut d'accordéon, car aujourd'hui, pour la toute première fois, nous allons ouvrir notre placard à archives. Comme promis, grâce à notre partenariat avec l'INA, certains de nos numéros seront articulés autour d'archives d'interviews et d'entretiens accordés par les grandes figures de notre instrument. Peut-être le savez-vous déjà, il y a quelques jours, nous fêtions le centenaire de la naissance d'une de nos icônes nationales, de celle qui aura été l'emblème du musette et de l'accordéon populaire durant des décennies, Yvette Horner. Elle a vu le jour le 22 septembre 1922 à Tarbes. Il était donc tout indiqué, 100 ans après, de lui consacrer ce premier numéro de notre placard à archives. Écoutons-la d'abord se confier sur le bal musette, justement, et la performance physique qu'il représente. Nous sommes en 1988 sur les ondes de France Culture.
Quand on fait un gala, un bal populaire, bien sûr, c'est un peu un sportif qui va gagner un match, qui désire le gagner, c'est comme ça que je vois la chose pour les bals populaires, donc... ce que je fais, j'ai besoin de tranquillité avant de monter sur scène. C'est très dur parce que lorsque nous attaquons un bal, je ne veux pas qu'il y ait de trous. C'est sans arrêt. Sans arrêt. On enchaîne les morceaux. Parce que, bien sûr, c'est quand même assez difficile de mettre une ambiance de feu. Et lorsque vous l'avez mise, eh bien, il faut la garder. Je ne veux pas de silence. Et ça représente 5 heures et demie de scène, sans arrêt, avec un instrument qui fait 13 kilos. C'est une performance.
Nous entendons « Reine de Musette », une composition de Jean Perronin, enregistrée par la reine du Musette, Yvette Horner, en 1951. L'immense popularité d'Yvette est née d'une idée un peu folle, lui faire ouvrir la caravane du Tour de France avec son accordéon. 11 années durant, elle sera là, sur le toit d'une voiture, parcourant les routes de l'Hexagone, devant les coureurs du monde entier, sous les acclamations de la France entière. En 2005, elle était à nouveau au micro de France Culture pour évoquer ce tournant dans sa carrière.
Mon corps était à tous les vents, la pluie. J'étais contente quand mon mari prenait de l'essence parce que ça me faisait un peu de repos. Et on me dit qu'il faut mettre une huile pour le soleil qui tape parce que c'est difficile de résister. Et moi, je mets une huile. Et qu'est-ce qui arrive ? Sans plexiglas devant moi, tout se collait sur mon visage. Les moustiques, tout se collait. J'étais,
J'étais sale. J'arrivais, j'étais plus sale que les coureurs. Et c'était moi qui devais remettre le maillot et les fleurs.
Les moustiques se collant sur le visage huilé d'Yvette. Heureusement, les choses vont s'arranger au bout de quelques années. Écoutez-la encore.
Et mon Dieu, cette année-là, surprise, qu'est-ce que je vois sur la voiture au moment de partir ? Un fauteuil. Au lieu que de m'asseoir sur le toit, j'étais dans un fauteuil.
Qui était ?
Sur le toit. Et j'avais un plexiglas devant moi. Ça fait que les choses ne pouvaient pas se coller tout de suite sur mon visage. J'étais satisfaite. C'était fatigant, hein ? Très fatigant. Parce que je jouais partout. Absolument partout.
Nous écoutons « Mon Tour de France », une valse composée et enregistrée par Yvette Horner en 1960. Si Yvette est devenue éminemment populaire grâce au tour et aux innombrables balmusettes qu'elle aura animées, il est des aspects souvent moins connus de sa carrière. Le premier d'entre eux est sans doute son premier amour musical, le piano. Très jeune, ses parents l'inscrivent au conservatoire où elle suit une formation de pianiste classique. L'accordéon s'imposera à elle par la suite, comme elle l'explique à Pierre Crénès en 1964 sur les ondes de France Inter.
Yvette Horner, depuis combien de temps jouez-vous de l'accordéon ? Et à quel âge avez-vous appris ?
Écoutez, j'ai commencé d'abord par faire des études classiques. J'ai commencé par le piano.
J'allais vous interroger sur ce point,
oui,
car voici encore une chose commune avec Sanson François. Vous êtes aussi pianiste classique.
Oui, j'étais.
Vous avez fait le conservatoire ?
Le conservatoire de Toulouse. J'ai eu un prix à l'âge de 11 ans. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé alors à jouer de l'accordéon. J'ai appris l'accordéon.
Yvette n'abandonnera jamais vraiment le piano, un instrument qu'elle chérit peut-être encore plus que son accordéon. En témoigne cet enregistrement réalisé en 1988 du rêve d'amour de Liszt par Yvette au piano.
Eh bien, l'accordéon, c'est comme n'importe quel autre instrument. Il doit se travailler, on doit le travailler. On travaille comme un concertiste, c'est pareil. Moi, je sais que je fais mes gammes, mes exercices. D'ailleurs, j'ai fait du piano avant, j'ai fait du conservatoire de Toulouse. Eh bien, j'ai fait toutes ces études-là.
Vous avez perdu le piano et l'accent. C'est dommage.
J'ai perdu l'accent ?
Oui, vous n'avez pas tellement d'accent.
Oh.
Non, il est très léger. Et c'est si joli, l'accent.
Merci. Eh bien, l'instrument se travaille comme de n'importe lequel. Il a besoin d'être travaillé. On peut faire des choses qui sont qui sortent bien sûr du domaine populaire, disons.
Oui, parce que l'accordéon est essentiellement un instrument populaire.
Oui, c'est populaire, mais on peut faire aussi autre chose.
C'est pourquoi il a tant de succès, d'ailleurs.
Oui.
Ça n'est pas péjoratif que de dire qu'un instrument
est populaire. Ah non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, il touche la corde sensible de nos amis.
Le travail, c'est une obsession chez Yvette. En préparant cette émission, j'ai écouté des heures et des heures d'archives et j'ai mesuré à quel point cette femme aura, tout au long de sa vie, dans tous ses entretiens, abordé cette question du travail, de l'exigence, de la remise en question perpétuelle du musicien. Nous l'entendions à l'instant, toujours au micro de Pierre Crénès sur France Inter en 65. Mais écoutez la constance de son propos. 15 ans plus tard, nous sommes en 1980 sur Radio Mayenne.
Pour vraiment, disons, pour faire une carrière, on ne peut pas dire « tiens, je ferai une carrière » parce qu'on ne sait pas, c'est un peu une loterie. Mais ce qu'il y a à la base, il faut déjà être studieux, se remettre en question tous les jours, ne croire jamais que c'est arrivé et travailler toujours comme un étudiant. Même en ce moment, je travaille toujours mon instrument comme si j'étais une débutante.
Dans cet enregistrement du Coucou de Dakin, réalisé en 1988 sur ce fameux disque Le Jardin Secret d'Yvette Horner, où elle s'est amusée à graver certains titres à l'accordéon et d'autres au piano. La capacité de travail acharnée de la reine du bal ne faisait pas d'elle une personnalité dépourvue d'humour. Tenons-en pour preuve cette archive d'avril 1983. C'est une des émissions phares de France Inter à l'époque, animée par le présentateur vedette José Arthur. Le tribunal des flagrants délires. Le concept est de recevoir une personnalité et de la confronter à un procès fictif plein d'humour, c'est souvent délicieux. Voici la présentation des charges à l'accusée Yvette Horner.
Yvette Horner, vous êtes inculpée d'infraction à la législation sur l'hygiène publique. Accordéoniste, depuis une trentaine d'années, vous mettez en danger la santé de nos concitoyens en vous promenant à travers ce pays et même à l'étranger avec votre instrument de musique que l'on appelle aussi boîte à punaises. D'ailleurs, même votre instrument est plein de boutons, très précisément 180 à gauche et 96 à droite. Vous êtes un danger épidermique ambulant. Vous êtes inculpé d'homicide par imprudence. Sous prétexte que vous êtes bonne musicienne, vous pensez pouvoir tout jouer à l'accordéon. Musette, variété, mais aussi jazz, rock, country ou classique. Hélas, le plus souvent, il s'agit pour ces genres différents d'un vrai massacre, d'un génocide vu par les puristes. Outrage au ministre des Finances, votre accordéon est le symbole du portefeuille des Français. Il s'étire et se gonfle, mais à l'intérieur, ce n'est que du vent. Yvette Horner, reconnaissez-vous les faits ?
Eh bien, non, pas tous, vraiment.
Brut d'accordéon, Félicien Bru, France Musique.
Si Yvette a été l'objet tout au long de sa carrière de bien des sketchs, des détournements ou des parodies, elle sera aussi se faire apprécier de grands artistes. Son amitié avec l'immense Pablo Casals en est une illustration, sa collaboration avec Maurice Béjart également. En décembre 1999, Béjart met en scène le ballet Casse-Noisette sur la scène du Théâtre du Châtelet. Il fait apparaître Yvette Horner sur un traîneau blanc, paré de son accordéon et d'une robe de tulle immaculée pour revisiter la valse des flocons de neige de Tchaïkovski. Le 6 novembre 1999, à quelques semaines de la première représentation, Maurice Béjart est au micro de France Bleu pour évoquer la présence d'Yvette et de l'accordéon dans son Casse-Noisette.
Maurice Béjart, merci de répondre à mon appel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'utiliser Yvette Horner ?
D'abord, c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi, aimé et admiré. C'est clair que c'est une bonne musicienne, c'est quelqu'un de... et puis c'est un personnage, et puis c'est quelque chose de fantastique. Et lorsque j'ai fait ce Casse-Noisette, j'avais envie qu'il y ait un personnage qui symbolise à la fois l'enfance, à la fois Paris, à la fois le rêve, à la fois quelque chose de très profond, de très humain, très insolite. Et il se trouve que j'avais une marraine qui jouait de l'accordéon, beaucoup moins bien qu'Yvette Horner. Et je trouve que c'est peut-être amusant que le petit garçon ait une marraine accordéoniste et qu'il ait la meilleure et la plus connue en France, qui est Yvette Horner.
Que pensez-vous de l'accordéon en règle générale ? Est-ce que c'est un instrument qui vous attire ?
Mais c'est un mode de vie qui m'attire, plus que l'instrument, vous voyez. Je crois qu'il y a une mythologie autour de l'accordéon, il y a un parfum de, à la fois désuet et actuel, un parfum présent et absent. Donc ce qui m'attire, ce n'est pas uniquement la sonorité musicale, c'est quelque chose qui est un monde, vous voyez ce que je veux dire. On rentre dans cet univers où on n'y rentre pas.
Il est bien difficile de contredire Béjart, Yvette Horner, c'est un monde. C'est aussi un look. On se souvient de ses tenues bleu-blanc-rouge, de ses accordéons multicolores, de ses robes dessinées par Jean-Paul Gaultier et évidemment de ses coiffures. Mais pour comprendre à quel point Yvette était dédiée à son public, je vous propose de l'entendre en 1970 sur les ondes de France Inter. Elle évoque ses choix, ou plutôt ses non-choix de coiffure, et c'est à peine croyable.
Mais je pense ce soir que c'est également un certain triomphe pour vous, parce que vous avez changé de coiffure. La dernière fois que nous étions rencontrés, vous aviez évoqué les problèmes que vous aviez avec le public, qui vous voulait fidèle à une certaine coiffure, alors que vous aviez envie de changer, ce qui est tout à fait naturel et féminin.
Oui, c'est-à-dire que depuis très très longtemps, je voulais changer de coiffure. Et un beau jour, j'avais fait un essai de paraître sur une pochette de disque avec un chignon. Et alors, il y avait eu tellement de lestres, de protestations, que toutes les pochettes qui avaient été éditées pour la sortie du disque, eh bien, la maison de disques avait été obligée de les jeter, car elle n'était plus utilisable. Alors donc, c'est par le truchement de la télévision que l'on a demandé au public s'il était d'accord pour changer de coiffure. Et alors, j'ai donc essayé trois coiffures spéciales. J'ai été coiffée par Alexandre. Et nous avons d'abord essayé avec des perruques. Et alors, le public a voté pour celle que vous voyez actuellement. Voilà.
Vous êtes vraiment une victime, Yvette Horner.
Une victime ? Je ne sais pas. Non, mais enfin, je pense qu'il faut tenir compte du public déjà, en premier. Ne pensez-vous pas ?
Ah, certainement.
Thank you.
Nous entendons Yvette Horner reprenant le fameux thème « Tea for Two » dans ce bel enregistrement de 1967. Si la reine du musette savait se donner corps et âme à son public au point de lui laisser choisir sa coiffure, elle a su malgré tout se préserver un espace bien à elle, un endroit qu'elle adorait, sa maison de Nogent-sur-Marne. Mais une fois encore, les surprises sont de mise avec Yvette. Elle évoque la décoration de cette maison, tout en accordéon, le 2 juin 1969, toujours sur France Inter.
À Nogent, il y a dans le parc un accordéon en mosaïque.
C'est ça.
Et l'intérieur, la salle de séjour, est décorée d'accordéons et de cendriers.
Cendriers, voilà.
Cendriers spéciaux qui ont été faits pour, en forme d'accordéon. On les applique, la cheminée, un accordéon, une cheminée, je puis dire, enfin, un accordéon géant qui représente, qui est en noir et or avec des initiales en or, et puis voilà.
Voilà. Mais si vous aviez fait de la flûte, je me demande comment vous auriez fait votre cheminée.
Entendons la Nogentaise, une composition d'Yvette Horner qu'elle interprétait dans cet enregistrement de 1976, une valse pour dire tout son amour de Nogent. Mais impossible de terminer cette émission avant d'avoir évoqué l'homme qui se cachait dans l'ombre d'Yvette, celui sans qui rien n'aurait été possible, René Drush, son mari. Footballeur professionnel, jouant aux Girondins de Bordeaux, il rencontre Yvette en 1936, l'épouse en 47, et fait le choix d'abandonner sa carrière de sportif de haut niveau pour se consacrer à celle de sa femme. Pas si commun pour l'époque. Yvette et René, c'est une histoire folle. Écouter Yvette parler d'amour, c'est prendre la mesure de ce qu'aura été cette passion. Nous sommes en 1969, elle répond aux questions de José Arthur sur France Inter.
Pour moi, je pense fermement que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour. C'est l'amour lorsqu'il comporte des sentiments élevés et délicats. Trois éléments principaux qui, pour moi, rentrent dans la composition de l'amour, c'est l'affection, l'admiration et la compréhension. Alors, donc, je pense qu'il faut, juger avant d'aimer, mais pas le contraire, je ne pense pas. Je veux dire l'amour sur la grande échelle, si vous voulez. Et je crois que c'est une chose principale dans la vie, car sinon, la vie serait, l'existence serait que médiocrité sans amour. Et c'est très important, ça.
Est-ce que vous avez connu cette chose dont vous parlez si bien?
Oui.
Et vous le connaissez encore ou vous l'avez connu?
Non, je le connais.
Vous le connaissez?
Oui, oui, oui.
C'est merveilleux, ça.
Oui, en effet, c'est merveilleux.
Oui.
C'est merveilleux.
Et vous le tenez caché?
Très caché.
René, la vie sans toi n'est qu'un souffle de vie. La musique sans toi, est-ce encore la musique? Dans mon cœur orphelin, un rêve inassouvi te fait me revenir en couplet nostalgique. De tant de souvenirs que mon cœur en mitoufle, tu resteras ma joie, mon amour, mon mari. De mon premier soleil jusqu'à mon dernier souffle, René, tu resteras le bonheur de ma vie. Le soir où ton regard a croisé mon chemin, j'ai senti sous mes pieds se dérober la terre. Qu'aurais-je été sans toi qui m'as pris par la main pour unir à jamais nos vies si singulières? Et je revois papa dans l'hôtel de Toulouse, quand pour te présenter j'avais dû lui mentir. Mon cœur adolescent s'affolait sous ma blouse. Mais mentir par amour, est-ce vraiment mentir? Et puis, ce fut Paris et nos premiers contrats. Nos premiers cabarets dans la nuit de Pigalle, imposant malgré tout mes morceaux d'opéra,
pour tracer mon chemin vers la Coupe mondiale. Je nous revois, René, sillonnant notre France, roulant de balle en balle jusqu'à l'épuisement, sans jamais s'arrêter, avec pour récompense le doux crépitement des applaudissements. Nos milliers de galas, nos 11 Tours de France, et l'auto qui fendait la ferveur du public, nos fous rires amoureux, nos amis, nos vacances, qui provoquaient nos joies sur un simple déclic. Je n'oublierai jamais la maison de nos gens, que tu as voulu pour moi comme un nid de douceur. Toute parée de fleurs et d'arbres de 100 ans, elle restera pour moi la maison du bonheur. Lorsque la maladie voulut nous séparer, j'aurais donné pour toi tout le sang de mes veines et tout abandonné pour ne pas te quitter. J'aurais laissé ma vie pour partager la tienne. Et comment oublier, quand tu rendis les armes, que j'ai joué pour toi pour la dernière fois, sur mon accordéon qui partageait mes larmes, l'air que tu aimais tant, le berger d'autrefois. Tu n'avais qu'un seul but, que ma vie soit sereine, que je n'ai pas d'ennui était ton seul souci, pour m'avoir tant donné, pour nos joies, pour nos peines. René, face à l'éternité, mon cœur te dit merci.
Yvette Horner qui adresse ces mots à son mari disparu 32 ans avant elle, dans ce titre, René, ma vie, mon sang, enregistré sur son tout dernier album, Hors Normes, paru en 2012, 4 ans seulement avant son décès. Et c'est sur cette belle déclaration d'amour que nous allons nous quitter, car Brut d'accordéon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là pour ouvrir le placard à archives de l'inimitable Yvette Horner, un épisode à retrouver dès à présent en podcast sur le site ou l'application Radio France. Rendez-vous la semaine prochaine pour une escapade à Bruxelles et dans toute la Belgique. Un grand merci à l'équipe du jour, Gilles Blanchard à la réalisation, Philippe Thibault à la technique et Marie-Christine Ferdinand, notre attachée de production. Il est bientôt 16h sur France Musique. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Jérémy Rousseau et ses invités pour une nouvelle tribune des critiques de disques. Je vous souhaite quant à moi une excellente fin de week-end, une très bonne semaine et comme dirait Michel, vivement dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.